Merci, Monsieur le Président. C'est en effet un moment émouvant pour chacun de nous, puisque plusieurs de nos membres arrivent au terme de leur mandat, ce qui marque un tournant important pour le comité après 6 ans d'existence. Nous devons exprimer à chacun d'eux toute notre reconnaissance pour leur implication dans le travail collectif du comité, avec une grande conscience, un total engagement, avec rigueur, indépendance et professionnalisme. Leur participation a été décisive dès le départ pour le fonctionnement efficace et harmonieux d'un comité qui est particulièrement dynamique et exemplaire. Nous pouvons le dire aujourd'hui avec fierté, après la conférence de révision du 19 décembre dernier, à laquelle vous avez fait allusion il y a un instant, Monsieur le Président. C'est un point commun entre nos 4 collègues d'être des juristes, même s'ils viennent de branches différentes, la magistrature, le barreau, l'administration ou l'université. Cette grande diversité a été un atout pour le comité, propice à des débats approfondis sur toutes les subtilités juridiques, les « legal niceties » de la Convention, qui n'en manque pas. De même, nos 4 collègues viennent de continents très différents, mais là encore, ce qui me frappe, c'est le même sens de l'humanité qu'ils ont apporté dans la mise en œuvre d'une convention qui vise la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ils viennent tous 4 de pays qui ont connu des guerres et des dictatures. Ils savent, pour reprendre le mot de Raymond Aron, que l'histoire est tragique. Au-delà des expériences politiques, des différences culturelles, des fossés linguistiques surmontés grâce aux interprètes, c'est un même idéal juridique au service des droits de l'homme, à l'échelle humaine, qui les a inspirés. Mais je ne voudrais pas me contenter de cet éloge collectif et au nom du comité. Il me revient de dire quelques mots plus personnels concernant 2 de nos collègues et amis. Notre rapporteur, M. Juan José López Ortega, est arrivé au sein du comité avec son expérience de magistrat et s'est révélé d'emblée un débatteur remarquable et redouté. Comme président, je savais que je pouvais lui confier les rapports étatiques les plus difficiles et qu'avec une puissance de travail inlassable, il allait se plonger dans les dossiers les plus complexes pour dénicher une faille, mais aussi pour explorer une piste de solution. Ce qui m'a sans doute le plus frappé chez lui, c'est la rigueur méthodique et la fougue de son argumentation, mais surtout, chacun des arguments étant scrupuleusement étudié, sa bonne volonté pour finir par trouver un consensus. Sans traduire le secret des délibérés ou diminuer notre responsabilité collective, on peut dire que le comité lui doit beaucoup, notamment pour la qualité de son raisonnement juridique. Sur une note plus personnelle, j'aimerais ajouter que le juge Juan José López Ortega a toujours été un collègue bienveillant, attentif et amical, pouvant jouer l'avocat du diable avec une passion ironique, mais sachant ne pas transformer des différends légitimes en antagonisme personnel. Ce magistrat parle comme un avocat et juge comme un sage. Avec M. Kimio Yakushiji, c'est un autre ami très cher qui nous quitte. Depuis le début, nous avons été personnellement très proches, non seulement en raison de sa gentillesse naturelle, mais aussi parce que nous avions la même formation d'internationaliste. Le professeur Yakushiji est trop délicat et modeste pour s'en vanter, mais il a présidé la plus que centenaire Nippon Society for International Law, et ses interventions précises sur un point de notre règlement intérieur ou sur une question de piraterie nous ont montré qu'il était un internationaliste particulièrement compétent. En faisant souvent tandem avec lui comme rapporteur, j'ai également mesuré sa préparation minutieuse des dossiers, son scrupule et sa discrétion, ses interventions publiques toujours précises et courtoises, mais allant directement au point juridique qu'il voulait mettre en lumière. Il s'est intéressé au rôle des institutions nationales, non seulement lors de l'élaboration de notre méthodologie, puisqu'il était rapporteur sur ce sujet, mais également récemment, à l'occasion du séminaire organisé pour prolonger les avancées au sein de l'ensemble des organes conventionnels. Il a également représenté très activement notre comité dans des réunions régionales importantes en Asie, comme celle organisée à Séoul par le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires au sujet des migrations. Lui aussi a contribué avec beaucoup de bonne grâce à l'émergence du consensus, même sur des points qui pouvaient être difficiles à ses yeux. Comme membre, puis comme vice-président du comité, le professeur Yakushiji a été un pilier exemplaire de notre travail collectif. J'aurais aimé aussi saluer M. Mohamed El Obaidi et M. Lucien Noizan, mais notre collègue Rainer Hulle le fera mieux que moi. Ces quatre personnalités si riches et attachantes que nous avons appris à connaître et à respecter dans des débats parfois animés, mais toujours constructifs, sont devenus des amis très proches. C'est sans doute un des rares miracles des Nations Unies que de permettre cette alchimie collective au service d'une cause qui nous dépasse. Chacun d'eux, à Genève comme chez lui, a donné le meilleur de lui-même pour que cette convention, qui était d'abord une utopie juridique, puisse devenir un jour peut-être une réalité pour tous. Ils continueront, nous en sommes tous persuadés, à rester mobilisés au premier rang du cercle des amis de la Convention, de cette Convention que nous avons pris l'habitude entre nous d'appeler notre Convention. Merci à eux tous.